Alexandre Dumas, Black, chapitre 28, où le chevalier part pour Paris. Un jour que Thérèse s'était trouvée plus souffrante que les jours précédents, et que le chevalier, ayant cette fois un prétexte plausible de ne point parler de son voyage de Paris, l'avait soignée toute la journée, l'enfant se coucha vers 7 heures du soir, en exigeant du chevalier la promesse qu'il ferait au clair de la lune, la promenade qu'il n'avait point faite à la clarté du soleil. Le chevalier promit. Et, comme cette promenade quotidienne était en effet nécessaire à sa santé, comme il faisait un temps magnifique, comme Black le sollicitait en même temps que Thérèse, en remuant la queue et en allant vers la porte, le chevalier prit ses gants, sa canne, son chapeau et sortit. Inutile de dire que, de jour comme de nuit, il n'y avait pour le chevalier de la Graverie qu'une promenade. C'était le tour de la ville. Il se dirigea en conséquence du côté des huttes. Vers 9h30 du soir, son tour de ville le ramena à la rue du Cheval-Blanc. En tournant l'angle qui, de la place de la cathédrale, conduit à cette rue, il aperçut la malle-poste qui changeait de chevaux. « Ah, dit-il, si Thérèse n'avait pas été plus souffrante aujourd'hui qu'hier, j'eusse retenu ma place pour Paris. C'était l'occasion. » Et il s'approcha machinalement de la malle-poste. Pourquoi s'approchait-il de la malle-poste? Oh, la belle demande! Tous les provinciaux sont plus ou moins flâneurs. Une diligence qui relaie, une voiture qui arrive, ont pour leur désœuvrement de si grands charmes que la poste elle-même, ou les cafés qui l'avoisinent, sont, dans beaucoup de villes, le rendez-vous de tous les oisifs. Des visages inconnus à regarder, des conjectures à former, des médisances à échauder, fût-ce sur les nuages, le roulement des roues sur le pavé, le bruit des grelots, les jurons des postillons, les abois des chiens, sont des distractions pour les cerveaux vides ou engorgés. Le départ et l'arrivée, ou plutôt l'arrivée et le départ des voyageurs, constituent tous les chapitres de l'imprévu d'une existence de province. Et M. de la Graverie était trop l'homme de la tradition pour manquer à la bonne fortune que le hasard lui envoyait. Il s'approcha donc du véhicule gouvernemental au moment où le garçon d'écurie venait d'attacher le dernier palonnier, où le postillon rassemblait les rênes et faisait claquer son fouet pour tenir ses chevaux attentifs au signal du départ qu'il allait leur donner tout à l'heure. Le conducteur, son portefeuille sous le bras, passa vivement entre M. de la Graverie et la voiture, grimpa dans son cabriolet et cria au postillon « En route !» Le postillon fouetta les chevaux, la voiture s'ébranla. Le mouvement fit jouer la portière mal fermée. La portière s'ouvrit. Depuis quelque temps, Black se tenait en face de la voiture, humant les émanations qui en sortaient de toute la largeur de ses narines, et la tenant, pour ainsi dire, en arrêt. Cette attention que Black paraissait prêter à une cause inconnue inquiéta le chevalier. Mais son inquiétude se changea en étonnement quand, par la portière ouverte, il vit Black sauter dans la voiture et faire toutes sortes de caresses à un voyageur enveloppé d'un grand manteau et qui se dessinait dans les profondeurs de la malle-poste, accoudé au coin le plus éloigné du chevalier. Disons, pour suivre la progression, que l'étonnement du chevalier devint de la stupéfaction quand une main sortit du manteau, tira la portière avec force et tourna le bouton en disant « Ah, c'est donc toi, Black ?» La voiture s'éloigna. Au bruit des roues, au claquement du fouet, à la fuite de la malle-poste qui lui enlevait son ami, le chevalier de la gravelerie revint à lui. La malle-poste était déjà à 20 pas. « Mais on me prend Black, » s'écria-t-il, « mais on me vole Black, conducteur, conducteur !» Le retentissement du lourd véhicule sur le pavé empêcha la voix du chevalier d'arriver jusqu'à celui qui l'appelait. Désespéré de perdre son chien, jaloux de la prédilection qu'il venait de lui voir manifester pour un étranger, intrigué du mystère qui se cachait sous cette reconnaissance inattendue, et supposant que ce mystère ne pouvait pas intéresser Thérèse, le chevalier ne pensa ni à son âge, ni aux velléités goûteuses qui le mordaient quelquefois à l'orteil, et il se mit à courir bravement après la voiture. Mais la malle-poste avait dans le personnel de ses 4 chevaux 16 pieds, tous les 16 sains et vigoureux, tandis qu'un des 2 que possédait le pauvre chevalier était légèrement avarié. Il ne l'eut donc jamais rejointe, ni même approchée, si une charrette qui se trouva entrée sous la porte du châtelet, au moment où la malle tentait d'en sortir, n'eût arrêté celle-ci quelques instants. Monsieur de la gravelerie profita de l'obstacle, rejoignit la malle-poste, sauta sur le marchepied et se cramponna à la portière d'une main et de l'autre à une courroie. De parler, il n'en était pas question. La course avait essoufflé le pauvre homme au point qu'il lui était impossible d'articuler une parole. Seulement, une fois juché là, il était tranquille. Si vite qu'elle alla la voiture, il la suivrait. D'ailleurs, il savait qu'à 1/4 de lieue de là, au moment où la malle-poste quitterait le faubourg de Lèves, elle trouverait la montagne et ne pourrait monter qu'au pas, ou tout au plus, au petit trot, sa pente escarpée. Là, il aurait évidemment repris haleine, et il lui serait loisible d'entamer le chapitre des réclamations. Ce qu'avait prévu le chevalier arriva. Pendant le kilomètre où il resta juché sur le marchepied, il reprit haleine. Et, arrivé au pied de la montée, la malle-poste passa d'abord du galop au petit trot, puis du petit trot au pas. Depuis quelque temps déjà, tandis que le chevalier regardait du dehors au dedans, Black regardait du dedans au dehors, et les 2 pattes sur le rebord de la portière, la tête à moitié passée hors de la malle-poste, humait l'air de la nuit avec le calme et la sérénité d'un voyageur dont le nom est couché sur la feuille du conducteur avec cet épigraphe « Payé ». Monsieur de la gravelerie, qui, au bout du compte, ne voulait que son chien et qui aimait autant l'avoir sans discussion, sauta en arrière, retomba sur la grande route et, espérant que l'animal allait en faire autant que lui, appela « Black ». Black, en effet, fit un mouvement pour s'élancer. Mais une main vigoureuse le retint par son collier et, bon gré mal gré, le réintégra dans la voiture. « Black !» répéta le chevalier avec une énergie qui ne laissait à Black que le choix entre une obéissance immédiate ou une désobéissance absolue. « Ah, ça !» dit une voix de l'intérieur de la voiture. « N'avez-vous pas bientôt fini d'appeler mon chien? Et voulez-vous lui faire briser les reins sur le pavé ?»« Comment, votre chien ?» s'écria le chevalier abasourdi. « Sans doute, mon chien, » reprit la voix. « Ah, voilà qui est fort !» s'écria le chevalier. « Black n'appartient qu'à moi, entendez-vous, monsieur ?» « Eh bien, s'il est à vous, C'est que vous l'avez volé à sa maîtresse.
À sa maîtresse, répéta le chevalier, au comble de l'étonnement, et trottinant toujours près de la voiture.
Pourriez-vous me dire le nom de cette maîtresse ?
Voyons, dit une autre voix, décide-toi à une chose ou à l'autre. Rends son chien à ce vieil imbécile ou envoie le promener. Mets 1 000 000 000 de cigares, que l'on dorme. La nuit est faite pour dormir, surtout lorsqu'on est en malposte.
Eh bien, dit l'autre voix, je garde Black.
Cette double provocation produisit sur le chevalier l'effet d'une commotion électrique. Ses nerfs, déjà agacés par la course qu'il avait faite, se crispèrent, et, sans calculer le double danger qu'il pouvait courir à ramasser une querelle sur une grande route et à se cramponner à une malle-poste qui, d'un moment à l'autre, pouvait reprendre le galop, il saisit la clé, tenta d'ouvrir la portière, et, voyant qu'il n'y réussissait pas, il se hissa sur le marchepied et se retrouva à la hauteur de l'ouverture qui donnait de l'air à l'intérieur de la malle.
« Ah ! Dit-il, je suis un vieil imbécile. Ah ! Vous gardez Black, c'est ce que nous allons voir. »
« Oh ! Ce sera bientôt vu, dit celui des deux voyageurs qui paraissait être pour les parties extrêmes. » Et, prenant le chevalier au cou, il le poussa violemment en arrière. Mais le désir de conserver un animal auquel il attachait un si grand prix et une superstition si étrange doubla les forces du chevalier. Et, quelque violente qu'eût été la secousse, non seulement elle ne lui fit pas lâcher prise, mais elle ne parut même pas l'ébranler.
« Prenez garde, monsieur, dit le chevalier avec une certaine dignité. Entre gentilshommes ou entre militaires ?»«
Ce qui est la même chose, monsieur, dit l'agresseur. »
« Pas toujours, répondit le chevalier. Entre gentilshommes ou entre militaires, qui touche, frappe. »
« Oh, comme vous voudrez, dit le jeune homme. S'il ne faut que cela pour vous contenter, je reconnais que je vous ai touché ou frappé à votre choix. »
Le chevalier allait répondre à la provocation en tirant une carte de sa poche. Il la cherchait déjà, lorsque le jeune homme qui semblait placé là comme modérateur s'écria « Louville, Louville, un vieillard !»«
Et que m'importe à moi, celui qui me réveille quand je dors 1 000 cigares, celui-là n'est ni un jeune homme ni un vieillard, c'est mon ennemi. »
Ce vieillard, « Monsieur l'officier, dit le chevalier, est un officier comme vous, et de plus chevalier de Saint-Louis. Voici ma carte. » Mais ce fut le jeune homme à la voix conciliante qui la prit, et, repoussant son ami d'un coin à l'autre, « Voyons, dit-il, prends ma place et donne-moi la tienne. » L'officier brutal obéit en grognant. « Je vous demande pardon, monsieur, pour mon camarade. C'est un garçon bien élevé d'habitude, mais pour jouir des bienfaits de l'éducation qu'il a reçue, il faut qu'il soit éveillé. Dans ce moment, par malheur, il est endormi.
À la bonne heure, dit le chevalier, voilà qui est d'un peu meilleure compagnie.
Mais vous, monsieur, vous avez dit de votre côté, je garde Black.
Sans doute j'ai dit cela.
Eh bien, je dis moi, « Rendez-moi, Black, je veux Black, Black est à moi. »«
Black n'est pas plus à vous qu'à moi. »
Et, comme pour prononcer ces mots, le voyageur s'était mis nez à nez avec le chevalier. Celui-ci, que le nom de Thérèse avait déjà fort étonné, jeta un cri de stupéfaction en reconnaissant le jeune homme. Le jeune homme, c'était Gratien, l'auteur du crime commis sur Thérèse. L'autre officier, c'était l'instigateur. L'émotion du chevalier fut si forte qu'il demeura quelques instants sans prononcer une parole.
il y avait quelque chose de providentiel dans ce qui lui arrivait. Aussi, son premier mouvement fut-il un mouvement de reconnaissance pour Black, et, le saisissant à deux bras, en approchant le museau de ses lèvres et en le baisant, « Oh, cette fois, s'écria-t-il, il n'y a plus à en douter, c'est toi, mon bon Huménil. Oui, c'est bien toi qui, après m'avoir fait retrouver mon enfant, veux m'aider à lui rendre l'honneur et à assurer son avenir. » « Par les cornes du diable !» s'écria l'autre officier, qui trouvait son juron ordinaire insuffisant pour une circonstance si insolite. « Cet homme est fou, et je vais appeler le conducteur pour le faire jeter à bas du marchepied. Conducteur, conducteur !» Louville, Louville, répéta son ami, évidemment fâché de ses violences, et d'autant plus fâché qu'il savait maintenant, par les paroles mêmes du chevalier, qu'elle s'adressait à un gentilhomme. Mais le conducteur appelé avait entendu. Il mit la tête hors du cabriolet, vit un homme cramponné à la portière de la malle-poste, et le prit pour un voleur qui mettait le pistolet à la gorge de ses voyageurs. Il descendit donc sans faire arrêter la voiture et repoussa rudement le chevalier. « Oh, oh !» dit celui-ci, « ne soyez donc pas si brutal, Pinot !» Or, Pinot était un des courriers qui se chargeait de fournir de provisions de bouche la cuisine du chevalier, au temps où le chevalier songeait à sa cuisine. Pinot recula tout étonné. « Eh oui, continua le chevalier, nous sommes de vieilles connaissances, il me semble, sac à papier. » Pinot avait commencé de reconnaître le chevalier, mais à son juron favori, il le reconnut tout à fait. « Vous, à cette heure, sur la route, monsieur le chevalier » s'écria-t-il. « Sans doute, moi. » « Je le vois bien, vous. Mais qui diable aurait pu s'y attendre? Vous n'avez donc plus peur ni du chaud, ni des courants d'air, ni de l'humidité, ni des courbatures ?» « Je n'ai plus peur de rien, Pinot, » dit le chevalier, qui, dans l'exaltation nerveuse où il était, eut en effet, comme Don Quichotte, cherché querelle à un moulin à vent. « Mais à qui en avez-vous sur la grande route ?»« À vous, Pinot. »« Comment à moi ?»« Oui, 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 à vous. »« Je vous demande, Pinot, d'arrêter la malle-poste et de me laisser causer 10 minutes avec ce monsieur. » « Impossible, monsieur le chevalier. » « Pour moi, Pinot. » « Oh bon Dieu, je dirais non. » « Comment ? Oh bon Dieu, tu dirais non ?»« Sans doute. Est-ce qu'il ne faut pas que j'arrive à heure fixe ? Avec cela que ma malle est en retard. Mais faites mieux. » « Voyons. » « Ma malle est à 4 places. Il n'y en a que 2 de prise. Montez dans l'intérieur, vous descendrez à Maintenon, d'où la malle du matin vous ramènera. » « Me relever à 2 heures du matin ? Non, Pinot, c'est contre mes habitudes, mon ami. » « Cependant, il y a du bon dans ton idée. J'ai besoin d'aller à Paris, mais de jour en jour, je remets le voyage. » « Eh bien, je vais monter dans ta voiture et je pousserai jusqu'à Paris. »« Vous avez besoin d'aller à Paris ? Vous poussez jusqu'à Paris ? Et vous n'avez pas, bravement, carrément, retenu votre place au bureau 8 jours d'avance, pour être sûr d'avoir un coin et ne pas aller en arrière ? » ?»« Ma foi, on a raison, monsieur le chevalier. » Vous n'êtes plus à reconnaître. Allons, montez, continua Pinot, en faisant jouer le ressort et en ouvrant la portière que n'avait pu ouvrir le chevalier. En vérité, si l'un de ces messieurs était une jolie fille, comme celle que vous avez recueillie chez vous, je comprendrais ce qui est arrivé. Et il faut bien que j'aie à faire 4 lieues à l'heure, afin de contenter l'administration, pour que je ne vous demande pas la clé de ce secret-là. Monsieur de la Graverie se hissa dans la voiture et, tout essoufflé, se laissa tomber sur la banquette de devant, tandis que Black, que son ravisseur avait laissé libre, s'était dressé contre lui et, bon gré mal gré, lui léchait le menton.